Bienvenue à la Funge Connection, épisode 80, le premier de l'année 2019. Pour ceux qui se trompent encore à l'écrivain, c'est toujours drôle. Je suis avec Patrick.
Salut tout le monde.
Et avec Steve.
Bonne année!
Donc, commençons avec les Shameless Plug. Les deux prochains événements majeurs, c'est le FICT à lequel je vais aller enregistrer un podcast croisé. On va être avec Damien, moi j'ai de la poutine, on va rire, ça va être fort plaisant. Le Sécure le 8 avril, organisé par Québec Numérique. Et il y aurait le 24 janvier, un événement un peu moins majeur, mais quand même tout à fait important tout autant, qui est Québec Sec, et d'un sujet qui nous sera annoncé très prochainement. En souhaitant que ce soit plus que deux jours à l'avance, comme l'habitude de ce qu'on va faire avec Québec Sec. Commençons avec les nouvelles. Des kits DNA, machin, ça va pas bien.
Ah ouais. Donc, on avait parlé, je pense, l'année passée, des compagnies qui, pour tu payes, je pense, plus ou moins 80$, tu reçois un kit à la maison pour tester ton arbre généalogique via ton ADN. Et cette compagnie-là, cette semaine, dans les derniers jours, a fait un partenariat de 300 millions de dollars avec une compagnie pharmaceutique qui crée des médicaments. Donc, bye-bye votre vie privée si vous avez acheté ça, parce qu'ils vont utiliser vos données pour créer des médicaments, faire de l'argent, whatever, ce qu'ils peuvent bien faire avec ça. Donc, il y a des sites web présentement qui vous expliquent comment supprimer toutes vos données de la compagnie qui est 23andMe. Et donc, si vous avez acheté ça, je vous suggère fortement d'aller enlever le tout en ligne pour pas que vos données soient utilisées à des fins non prévues.
Mais c'est dommage, ça, parce que justement, c'est un changement au contrat utilisateur qu'en plein milieu, tu sais, tu vas là, non, nous partagerons jamais, tu sais, tout ça, puis t'es coup, oups, il y a un intérêt commercial qui apparaît, puis on va modifier, on va vendre, pouf, on respecte plus notre engagement de base, donc.
Mais en même temps, en faisant un partenariat, ils deviennent comme propriétaires de l'entreprise, fait que c'est pas, ils vendent les données à quelqu'un d'autre, c'est comme à peu près les mêmes personnes.
Ouais, ouais, c'est ce qu'on croise. Vendre la compagnie, c'est comme vendre les données, là, dire,
ouais, même chose.
C'est pas très loin, là, mais c'est en tant que consommateur, c'est pas la première fois, là, eux autres, mais il y en a d'autres comme ça, ça crée une érosion de confiance avec ces compagnies-là, qui offrent par ailleurs des services intéressants, mais si on est toujours en train de se faire avoir, toujours en train de se faire passer un savon parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a racheté plus tard, ça perd toute sa valeur, ces services-là.
Oui, ça sonne un peu comme des beaux plugins web, Chrome et autres, qu'ils font du sens, ils achètent, il y a des millions de personnes qui les ont, puis le gars va aller vendre ça à un Russe qui va merger un backdoor dedans, puis que le bon code devient malicieux. Mais tu sais, c'est pas en faisant ce type de partenariat, l'entreprise vient briser la vie privée, c'est pas malicieux, mais en même temps, c'est pas super legit, là. Ouais.
Ce qui est dommage là-dedans, je veux dire, ça, c'est une compagnie américaine, puis il n'y a aucun recours canadien qui peut aller à ce moment-là protéger les données des Canadiens qui sont de l'autre côté. Puis malheureusement, le commissaire à la vie privée, ben, il donne au gaz encore, mais j'ai pas peur de le dire. Et il ne protégera pas le Canada, les intérêts des Canadiens là-dedans. Puis, comme on dit, quand même que ce soit une compagnie canadienne qui aurait fait le collecte de cette information-là, qui aurait été passée à un intérêt américain ou autre dans le monde, ça a été le même scénario, puis c'est ça qui est plate aujourd'hui, tout cumul d'informations, une fois que c'est parti, comme tu viens de décrire, Patrick, il n'y a plus de contrôle après ça, où est-ce que ça va aller, puis comment est-ce que les gens peuvent...
Oui, exact. Le seul contrôle possible, c'est via les personnes en Europe avec le GPRD, mais à voir qu'est-ce qui va se passer avec ça, vraiment.
Définitivement.
Et encore, puis jusqu'à présent, on n'a pas encore vu la pleine portée du RGPD, puis j'ai encore un doute raisonnable sur la capacité réelle à mettre à l'amende les contrevenants d'un point de vue du moins européen.
C'est compliqué parce que tu ne le sais pas, tu ne vois pas les données de l'autre entreprise à côté, qu'est-ce qu'ils font avec, jusqu'à temps que quelqu'un fasse une plainte. Tu sais, fait.
Donc, sous la plainte, exactement, il va y avoir investigation, il va y avoir enquête. Il y a eu encore, je pense que c'est Facebook qui récemment avait fait que lui s'est fait mettre à l'amende. Mais je crois pas que c'était sur RGPD, ça, je le vérifie, mais il reste toujours bien qu'il y a des compagnies qui commencent à faire davantage plus attention, parce que quand on visite les sites web, il y a de plus en plus d'avertissements citant que les cookies, ben ça se peut qu'on cumule l'information ici et là, tout comme TVA. En Europe, présentement, s'engage à ne pas diffuser rien parce que Québécois Média ne veut pas répondre à RGPD.
Parlant de ça, la plupart des journaux québécois sont même pas accessibles en Europe.
Exactement.
Ils sont barrés via GeoIP.
Exact. Fait que, c'est une façon de dire qu'ils ne s'impliquent pas, parfait. Ils respectent, ils évitent la loi dans le sens qu'ils ne répondent pas à ces questions-là. Mais quand on est ressortissant, qu'on veut lire l'information à l'extérieur, ça peut être peut-être fatigué un peu. Hein.
Puis en même temps, c'est une compagnie qui volontairement refuse de se conformer au RGPD, c'est qu'elle pose de sérieuses questions sur la gouvernance de leur information et de la sécurité de cette information-là à l'intérieur de l'organisation aussi. Là.
Ça veut surtout dire qu'ils n'ont sûrement rien en place. Là.
Je pense plus ça aussi. Hein.
Ouais.
Ouais, en tout cas. Passons. Mm-hmm. Dark Overlord a fait a publié de l'information.
Oui, tout à fait. Dark Overlord, un groupe de hackers qui ont dit qu'ils ont mis la main sur un paquet d'informations provenant de cabinets d'avocats de compagnies d'assurance qui ont rapport avec les événements du 9 septembre 2001. La Lloyd's of London déclare qu'ils n'ont aucunement rien à se reprocher là-dedans, que c'est pas vrai les prétentions de Dark Overlord. Et ils ont commencé à faire fuir d'informations. C'est des informations sommaires, je veux dire, c'est des documents caviardés, des documents web, de PDF, c'est-à-dire, qui laissent s'entrevoir que oui, c'est des gens qui ont rapport à des échanges d'informations, plutôt des demandes face à ce qu'ils ont subi dans les événements du 11 septembre. Il n'est pas rare, est-ce que c'est vrai par exemple ou est-ce que c'est faux, il n'est pas rare de voir que des groupes de hackers comme ça vont mettre la main sur des documents qui ont une certaine connotation semi-officielle et vont, par rançon, vont menacer de diffuser ce qui est le plus juteux s'ils ne sont pas payés en une rançon, évidemment, en Bitcoin. Dans ce cas-ci, il n'y a pas grand monde qui croit que ce groupe-là de Dark Overlord a mis la main sur le trésor magique là, qui comporte toutes les qu'est-ce qui est plus juteux comme information, eh bien, ça serait une tentative d'extorsion. Fait que, on va voir, ils ont commencé, le compte Twitter a été suspendu, mais il reste pareil que ça commence à être diffusé de plus en plus. Maintenant, les stashes sont disponibles. Si on veut voir les stashes principaux, il faut payer en Bitcoin, donne la clé, puis on est capable de télécharger l'information. J'en ai vu quelques-uns jusqu'à là, des documents, mais je suis sceptique de comprendre si c'est la vraie affaire qui est en arrière, si c'est parce que les autres, ils claiment que c'est les 9-11 Papers, pas les Panama Papers, mais le 9-11 Papers, qui seraient aussi gros que qu'est-ce que Edward Snowden a révélé avec la NSA. On verra, parce que c'est pas ça qui est présenté.
Ce qu'il dit, c'est que c'est juste des papiers, des documents d'assurance, ou il y aurait vraiment plus que ça?
Le groupe stipule qu'ils ont plus en main. Ils disent qu'ils ont encore là des éléments de transaction, des échanges de courriers électroniques, des échanges de documents qui prouvent les implications de grosses têtes dirigeantes avec le gouvernement, l'Arabie Saoudite, un paquet d'échanges comme ça.
Ouais, OK.
Est-ce que c'est encore là vrai à sa pleine teneur? J'ai hâte de voir.
Ouais. Il y a beaucoup de monde sur Twitter et autres réseaux qui étaient comme ben, relise-les, voir si c'est vrai.
Oui, parce qu'à date, ce qu'ils ont donné là, à date pour que tout le monde puisse commenter, ça ne dit rien. Ça ne dit pas grand-chose, en tout cas.
Effectivement. Puis si c'est vraiment juste des documents d'assurance, qu'est-ce que ça va donner au final? À rien. Tu sais, je veux dire, la compagnie a brûlé, ben, je veux dire, a reçu l'argent des assurances, là, évidemment. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de détails, puis ils n'ont pas l'air de les gérer. Donc.
Ben, ça, c'est l'exploitation, la conspiration, la théorie de la conspiration.
Très conspiratif encore. Là.
Ah, la maudite conspiration! Oh là là! Et changeons pour un autre volet politique où les politiciens allemands ont subi, contre leur gré, une énorme fuite d'informations.
Ben, ça, c'est pas de la conspiration, c'est une réalité. Où ce que il y a des éléments russes d'espionnage que ça fait quelques années qui gravitent alentour du Parlement allemand, des partis politiques, pour, encore une fois, influencer les partis, parce que dans ce cas-ci, c'est de l'information des partis autres que le parti d'extrême droite, là, que les informations ont fui au grand public. Ce qui est intéressant, c'est de l'information nominative sur des comédiens, des journalistes et des politiciens, incluant Angela Merkel, des informations personnelles qui, à ce moment-là, pas nécessaire d'avoir ça dans l'espace public, mais bon. Le point qui était important là-dedans, c'est que ça s'est retrouvé sur l'espace public parce qu'on a été capable d'aller chercher à l'intérieur des réseaux du Parlement allemand. Ça laisse à ce moment-là place à beaucoup de questions. Quelle est la position de la cybersécurité en Allemagne? Est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'elle est forte? Et ça ici, je veux dire, c'est pas juste des oui-dire, c'est vraiment de l'information qui a été corroborée comme étant vraie, véridique. Fait qu'il y en a un paquet de gens présentement en Allemagne qui sont pas trop contents de commencer l'année de cette façon-là. Et ça laisse croire à ce moment-là, bon, ben, ce groupe-là, est-ce qu'ils ont été capables d'aller un peu plus loin? Un peu plus loin dans le sens que c'est est-ce qu'ils ont été chercher plus d'informations? Et si oui, quoi? Parce que l'attribution présentement, elle a été faite avec un groupe de hackers russes qui a mis la main sur des informations de réacteurs nucléaires en France il y a quelques années. C'est ça qui est un petit peu troublant. Et autrement dit, ça empêche nos infrastructures essentielles un peu partout sur la planète. Quand on parle d'infrastructures essentielles, dans ce cas-ci, on parle des instances gouvernementales, parce qu'il y a des décisions politiques. Et si ils s'en prennent à des trucs énergétiques, donc comme un réacteur nucléaire, ils ont été mettre la main sur des papiers de recherche, des mémos à l'interne, tout ce qui peut mener justement à l'administration d'une place digne de ce nom, d'un réacteur nucléaire. Mais encore une fois, c'est pour dire que c'est pas de tout repos. Et dans la prochaine année, je peux renchérir une de mes prédictions, les infrastructures essentielles de cette nature-là vont être davantage sollicitées, exploitées. Non pas nécessairement pour avoir un avantage militaire, mais bien aussi pour en faire un élément de, qu'on peut dire quasiment de quasi-terroriste, ou ce que ça va faire peur au monde, pour à ce moment-là peut-être encore là aller chercher une rançon, si jamais c'est ça qui est nécessaire du côté des gens qui veulent amener ce genre de truc-là sur la place publique.
Ouais, c'est assez troublant. Mais dans le cas, si on parle vraiment de cette nouvelle-là au niveau de la classe politique allemande, est-ce que ça va amener une certaine prise de conscience justement de cette classe-là qui, généralement, est un peu plus lente à réagir ou à mettre des législations qui sont favorables à un sans contrôle, parce que les Allemands ont déjà interdit la possession des logiciels de piratage.
Et des poupées Kyla.
Ce qui fait que, tu sais, ça, c'est pas un sans contrôle, parce que faut le voir, mais d'une bonne hygiène, de favoriser une bonne hygiène de sécurité au sein des institutions publiques, du moins dans leur pays, puis j'espère se propager dans le restant du monde.
Ça reste à voir, parce que généralement, l'environnement, le gouvernement allemand sont quand même assez avant-gardiste pour être capable d'intercepter puis de définir à l'avance qu'est-ce qui ils savent très bien. Je veux dire, l'influence russe pour faire du détraquage politique, on appelle ça les opérations d'information, c'est quand même à travers la planète. On l'a vu récemment ici contre les Américains. On l'anticipe beaucoup envers les élections de 2019, d'octobre 2019 ici au Canada. Mais c'est ce genre de l'avantage russe qu'ils ont à faire ça, c'est vraiment de faire à ce moment-là. Occuper le gouvernement puis de faire un agenda autre qui est à l'avantage de la Russie. Les Chinois font la même affaire. Puis je veux dire, tout pays qui est dans le monde qui ont intérêt de faire pencher d'un côté comme de l'autre les éléments politiques vont s'adonner à ce genre d'influence-là. Puis là, aujourd'hui, ben, ça s'y prend avec les médias sociaux, les réseaux électroniques. Et dans ce cas-ci, de la diffusion d'informations propriétaires avec la centralisation, je veux dire, les organisations gouvernementales, tout comme les entreprises privées, s'en vont de plus en plus vers les nuages. Les nuages, les infos nuagiques vont être beaucoup la cible pour être capable d'aller faire fuir l'information. Les infrastructures sont fortes quand même, mais ça va être l'élément humain qui va faire en sorte que ça va faire détraquer le processus de sécurité, puis on va peut-être voir plus d'informations propriétaires comme ça, mais sur l'espace public, malheureusement.
Et tant qu'à parler de fuite de données, Chromecast, il y a eu une certaine fuite d'informations là aussi.
Oui, ça c'est un cas qui est un peu non prévu dans le modèle de comment on dirait ça, dans le threat model, là, dans le modèle de risque que de Google, en fait. Les Chromecast sont un petit module que tu plugues dans ta maison pour contrôler soit ta télé, soit mettre de la musique, etc., dans ton système de son. Et quelques hackers ont décidé de scanner Internet pour ces modules-là. Puis ils en ont trouvé plus ou moins 4000 exposés et ont décidé de pousser dans le fond, parce que le concept de caster, c'est de streamer de l'information vers le module. Donc, ils ont créé une petite vidéo qui ont poussé cette image-là sur ces 4000 Chromecast, disant que vous êtes vulnérable, vous avez été piraté, blablabla. Puis tant qu'il y a, est allé voir telle personne sur, je pense que c'était YouTube ou Instagram, là. Fait, ils ont comme fait une propagande sur un gars qui voulait surtout pas avoir cette publicité-là, ce qui était très drôle en même temps. Et donc, Pourquoi je parlais du modèle de risque? Parce que le Chromecast a été designé pour être à l'intérieur d'un Wi-Fi et non pas exposé sur Internet. Donc, par défaut, la sécurité de ce module-là n'a pas de feature pour bloquer personne. Si tu y as accès, ben, tu y as accès. C'est ça le concept. Donc, c'est ça. Google a dit que ben, c'est pas vraiment de leur faute. C'est plus la manière que ça a été utilisé et blablabla. Mais ça revient à un concept de IoT, comme les caméras et autres, qui vont se faire exposer sur le web et qui, à ce moment-là, s'ils ont des failles ou sont simplement comme un Chromecast et simplement possible d'écrire dessus, ben, ils se font attaquer. Hein?
Ouais, c'est un sérieux problème, mais ça, tu vois, du côté de Apple, ça a été réglé, le protocole AirPlay qu'eux utilisent. Mm-hmm. Oblige une authentification numérique minimalement entre les devices, ce qui évite du drive-by, comme un peu comme tu relates là.
Oui, exact. Le problème, le Chromecast offre ça en partie. Si tu ne fais pas partie du réseau, tu as une authentification qui est faite si tu vas être comme un guest, un invité dessus. Mais sinon, si tu es dans le réseau, il accepte tout le monde qui a l'application pour pousser dessus. Donc, on va voir s'ils vont copier Apple ou non dans ce concept-là. Mais en même temps, je vois pas comment une télé se ramasse directement sur Internet ou un système de radio, mais ça a l'air qu'il y en a qui le font, évidemment.
Il y en a beaucoup qui connectent n'importe quoi qu'ils ont dans la maison direct sur les boîtes des ISP, des fournisseurs d'accès Internet, excusez.
En même temps, les boîtes par défaut, mais là, c'est sûr qu'il y a des vieux modèles, mais généralement, par défaut, toutes les parts sont fermées. Fait que tu n'as comme pas accès, tu sais. Fait qu'il faut volontairement...
Et ça, je vais ramener un vieux talk, je pense, au DEF CON de Jim Norton, qui disait comment panner des Apple TV dans les réseaux d'hôtels. Parce que par défaut, à cette époque-là, il n'y avait pas ce degré de sécurité-là. Donc, dès que tu étais sur le réseau de l'hôtel, ils se voyaient tous entre eux autres. Puis, tu étais en cas de broadcaster de la cochonnerie sur l'utilisation des autres, sur la base qu'il n'y avait pas cette vérification-là. Ce qui est probablement que ce qui a amené Apple à l'époque à mettre des vérifications obligées d'une espèce d'authentification, un peu le pairing peut-être du Bluetooth.
Oui, exact. C'est à peu près le même concept, qui est le concept que je parlais quand tu es invité sur le Chromecast. Puis ça, quand tu parles de Apple et dans un réseau d'hôtels, ben, tu as tout le concept des librairies de musique et autres via Bonjour, là, qui fonctionne, je pense, encore aujourd'hui, qui est quand même drôle.
Oui, j'avais fait un papier là-dessus que je prenais souvent le train à l'époque.
Oui, exact, je m'en souviens. Genre de Ascent, mais dans la live, dans la vie, sur des Wi-Fi, peu importe où ce que tu étais physiquement, là, c'était quand même un bon concept, le fun, mais que... devrait fonctionner encore en partie aujourd'hui.
Ah, c'était particulièrement comique d'avoir accès à la librairie de musique de n'importe qui dans le train qui avait oublié de fermer ses affaires comme du monde. Et généralement, tu avais même son nom parce que comment les Macs se configurent, c'est qu'il demande ton nom puis il va nommer ton nom, le nom de la machine avec ton nom. Fait que tu as en plus le nom de la personne.
Ouais, la plupart du monde mettent leur vrai nom.
Tout ça est tout à fait fascinant. Continuons avec une suite sur une fuite d'informations plus massive et beaucoup plus inquiétante, celle de Marriott.
L'année 2019, je veux dire, se poursuit avec cette histoire-là de Marriott. Où ce que maintenant, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est plus 500 millions de personnes qui ont été impactées par cette fuite d'informations, mais bien 383 millions, ce qui est le par contre.
Correct?
Ben oui.
Non, pas beaucoup.
Non, c'est banal, je trouve. C'est correct. C'est ça, c'est une bonne nouvelle. Je la mets comme ça pour commencer l'année. Ouais. Le downside de cette nouvelle-là, le penchant négatif, c'est qu'il y a quelques 5,25 millions de numéros de passeport qui ont été gardés dans une base de données de chez Marriott, non encryptés, alors que le reste des passeports, ils l'étaient. C'est quand même assez amateurish, excusez le terme anglais, mais c'est...
Puis c'est terrible, ça fait très 1998-2002 max. Là.
Oui. C'est gardé sur une clé USB, là, ce genre d'affaires qui traînaient puis qui ont plugué pour dire qu'il y avait accès.
Oui, ils ont donné ça au stagiaire, puis il a plugué ça dans le système. Il a fait de l'entrée de données manuelles. C'est bien.
Genre de modus operandi, exactement. Mais j'ai pas peur à dire non plus que ça devrait être, encore une fois, quelque chose de criminellement responsable des compagnies comme ça qui détiennent une quantité massive d'informations et du jour au lendemain, que c'est encore une fois tout le monde, je m'inclus là-dedans, j'ai reçu mon courriel disant que mes données étaient compromises, qu'à ce moment-là, les dirigeants, les directeurs informatiques, le CIO, le président devraient être tenus responsables aux criminels face à ces fuites d'informations-là, parce que c'est de la négligence tant qu'à moi, je veux dire, de ne pas retenir l'information au même titre que Equifax, qu'on a vu l'année dernière, Equifax, qu'ils ont pris la décision de ne pas patcher, puis après ça, ils ont fait un délit d'initié, puis après coup, le hack qui est arrivé. Je veux dire, ça, là, ça devrait être encore une fois des accusations criminelles de ces gens-là. J'ai d'autres idées en tête, je ne peux pas les dire ici en nombre, malheureusement, mais c'est ça.
Il y en a plein.
Oui.
Mais après, c'est en bonne exclée de s'assurer que les hauts dirigeants soient imputables de toute négligence de cette nature-là qui ont des impacts massifs sur les citoyens.
Oui, exact. Puis tu sais, c'est pas le concept de « il y a une brèche, tu t'en vas en prison ». C'est pas ça, là. Mais il y a comme une limite, justement, qui est une négligence. Puis là, Mariette, ça n'a plus de sens, là.
Non, mais c'est tellement gros, là. Puis le but là-dedans de cette fuite d'informations-là, je veux dire, qui a intérêt pendant 4 ans à l'exploiter toute l'information, c'est pas juste des revendeurs sur le dark web. C'est les agences de renseignement internationales que là, ils vont être capables de suivre à la trace les dirigeants d'entreprise, les politiciens, même des militaires, pour les suivre à travers le monde, où ce qu'ils vont connaître le pattern, et après coup, peut-être les exploiter.
Méga hostile, là.
Ben oui.
C'est de l'intelligence incroyable. Surtout qu'à l'échelle que c'est, tu vois des patterns par entreprise, pas juste par personne.
Exact.
Par organisation, par partenaire. Tu vois qui rencontre qui, parce que tu sais que quelle entreprise est telle personne qui va à telle en ville, qui a telle autre entreprise. C'est fou ce que tu peux faire avec ça. Là.
C'est là que on parlait d'éveil tantôt, d'éveil, c'est-à-dire qu'il faut que les entreprises et surtout les gouvernements commencent à ce moment-là à brasser un peu le pommier pour être capable d'amener les gens à conscientiser là-dessus. Je crois même qu'il est trop tard pour le faire. J'ai une pensée magique de comprendre que tous les dirigeants vont se réveiller une année et dire hey, oui, il faut faire attention. On en parlait tantôt en Allemagne, qu'est-ce qui se passe? Mais oui, ils ont interdit les poupées des jouets qui écoutent les enfants. Et ici, au Canada, on en est encore à dire que c'est pas grave, on laisse ça aller. Puis, c'est des choses comme ça qui m'écœurent parce que les gens, à Noël, se sont donné beaucoup de cadeaux de Noël. Les enfants ont reçu beaucoup d'électronique, mais encore une fois, la base fait en sorte que l'enfant va être à risque.
Ça, c'est ultra, c'est vraiment troublant, la capacité de ramasser l'information sur les enfants, puis l'espionnage que tu peux faire avec ça. Ça, c'est créer un malaise très important, mais en même temps, on avait parlé un peu dans l'épisode avec Patrick, je pense le précédent, sur le fait qu'il y a une limite à ce qu'on est capable d'éduquer les gens. Donc, et le législateur a un rôle de gardien pour nous prémunir de ces corporations-là qui sont sans scrupules, justement parce que le commun des mortels n'a pas la capacité de savoir tous ces petits détails-là, puis c'est complexe. Hein. On est des professionnels là-dedans, puis en ça, on a même une connaissance partielle chacun de ça. Fait qu'imagine celui qui n'est pas dans le domaine. Fait que c'est au rôle du législateur à vraiment rebalancer le marché. Ouais.
Ça va être le concept que tu expliquais dans le dernier épisode, que changer du comportement, c'est du 15 à 25 ans. Là. Fait que on est vraiment dans ce mode-là présentement. Là.
C'est gros, là. Puis dans 15 à 25 ans, mais que ça soit changé pour qu'est-ce qu'on a le besoin actuel, il va être trop tard parce que ça va être une évolution qui a eu lieu en dedans de 5 ans.
Oui, oui, évidemment.
Parce que l'humain n'a jamais eu de besoin d'évoluer aussi vite que ça, ce qui fait que là, on est dans un contexte où le paysage autour de nous autres change tellement vite par rapport à notre capacité réelle d'adaptation au changement que parfois des gens ne sont pas capables de suivre. Justement, comme je mentionnais, barrer les portes, verrouiller les serrures, l'alcool au volant, toutes ces choses-là qui ont une diminution drastique dans les dernières années, mais ça a pris l'équivalent d'une génération avec que ça drop de façon significative. Donc, les gens vont prendre beaucoup de temps avant d'absorber ce genre de changement très fondamental à leur comportement. Puis là, on leur demande de faire ça, mais avec des nouvelles affaires à tous les jours, toutes les années.
Puis hier, dans l'affaire de fuite d'informations des trucs d'enfants, je veux dire, il y a quelques années, Vitech, il y a eu eux autres une fuite, c'est en 2015, une grosse fuite d'informations, les enregistrements des enfants, les informations nominatives des enfants, des parents, tout ça. Ils se sont fait quoi? Donner par le FTA, le Federal Trade Commission aux États-Unis, une perte de ses doigts de 650 000 $. Ça vaut-tu vraiment ça, la vie privée à cette heure? Y a-t-il un prix qu'on peut mettre sur l'intérêt, tu sais, puis qu'est-ce qui va être exploité de ces informations-là? Ça va être exploité des années down the road, excusez de dire ça, mais plus tard. Mais le mal, il est fait dans l'immédiat. 650 000 $, ça s'en va où? Ça va faire quoi? Ça ne fera pas rien en termes de prévention supplémentaire. Une compagnie comme Vitech, ça génère des milliards par année. C'est quoi, 650 000? Prends-en 100 000 de plus, puis que ça coûte patience. Je veux dire, ça n'a pas d'incidence, puis ils vont continuer le mauvais pratique.
Oui, puis ça revient aussi à ce que je disais sur le fait que c'est à la mesure où ils vont évaluer les gens de risque dans ces entreprises-là, vont évaluer le coût d'une poursuite versus le coût de correction. Et si le coût de la correction est plus élevé que le coût de la poursuite, la correction ne sera pas faite. Et le scooter mobile est très coupable de ça pendant longtemps. Donc, on n'est pas mieux en TI.
Non, puis c'est pas parce que la compagnie se fait taper ses doigts avec de l'argent que nécessairement ils vont se doter d'une équipe de sécurité ou qu'ils vont changer leur manière de faire. Tu sais, l'amende, si elle n'est pas liée à quelque chose, comme tu expliquais tantôt, plus criminel ou plus grave d'une certaine manière, tu sais, qu'il faut qu'il se lie à des normes gouvernementales ou autres, mais il se passera rien.
Non, exactement.
Effectivement. Mais et passons à la nouvelle suivante. Là, certaines imprimeries ont eu quelques problèmes, pas l'imprimerie des magazines ou des journaux, à cause des imprimeurs aussi, ont eu quelques difficultés dernièrement puisqu'ils ont été subis des attaques.
Ben oui, juste dans le sud-ouest des États-Unis, mais tu as raison, c'est des imprimeurs, Nicolas, qui ont tombé sous l'effet d'une cyberattaque de denier de service, les empêchant de pouvoir acheter. Beaucoup de quotidiens de ce coin de pays-là ont été empêchés d'envoyer leurs épreuves pour être imprimées par la compagnie Tribune. Et c'est quand même quelque chose qui est sans précédent. Mais juste avant, on a eu l'attaque aussi avec les centrales de 911 qui ont été quand même centralement avec une seule carte réseau, ça a l'air que ça a bloqué un paquet de sites redondants aux États-Unis pour des réseaux 911. Ça, celle-là, en tout cas, on va en reparler un autre jour, ça a été assez drôle.
Une carte défectueuse, oui.
Une carte défectueuse qui a généré des bad packets, là, tu sais. Ça met à terre 4 data centers à travers le continent pour les 911. Allez, ouais.
On parlera d'architecture une autre fois, oui.
Oh, exactement. Fait que là, pour ces imprimeurs-là, qu'est-ce qui est arrivé? Ils n'ont pas été capables d'imprimer à temps. Bon, ça, c'est tel que tel. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est l'attribution de la taxe. C'est un rançon logiciel qui a fait son chemin dans le réseau d'imprimeurs. Et c'est un rançon logiciel-là, RISC, ROC. RIC, oui, RIC, R-Y-Q-K, a été aperçu puis il veut dire qu'il y a des avis qui ont été mis par le DHS quant à sa virulence et qu'il était disponible un peu partout. Maintenant, on ne saura pas qu'est-ce qui exactement commence par quel chemin il est rentré. Ils vont garder ça, évidemment, sous le couvert de la secret d'entreprise, mettons ça comme ça. Par contre, n'importe quelle entreprise est à risque, encore une fois, parce que n'importe quel rançon logiciel fait son chemin. Il y en a beaucoup qui sont toujours actifs. Il n'y a pas de clé pour les déverrouiller, mais il reste toujours bien que, comme on le voit au Québec en 2018, beaucoup d'organisations tombent victimes de ces genres d'attaques-là et ils sont simplement pas prêts à revenir sur le pas rapidement. On a vu des commissions scolaires, ça a pris 3-4 mois avant qu'ils reviennent corrects. On parle de sites web, on parle de tout le système d'Active Directory qui était mis à terre. On a des entreprises privées, des hôpitaux, tout le monde y passe. C'est pas des cibles particulières. Donc,
les trois quarts se rendent compte qu'ils n'ont pas de backup à ce moment-là ou que leur backup est connecté sur tous les postes, donc ils ont été infectés aussi. Tu sais,
Exactement. Puis ils n'ont jamais fait de test de recouvrement. Puis comme tu dis, le dernier backup qui est bon, il date de 6 mois, des choses comme ça. Là. Fait que ça, c'est j'espère, comme on disait tantôt, que ça va être le bon wake-up call, que les gens comprennent dans un avenir rapproché que ça, c'est un minimum qu'ils doivent vérifier. Et ça fait partie, malheureusement, d'utiliser les TI en 2019, parce que oui, avoir un bon backup, ça demeure quelque chose de critique et essentiel. Mais...
Ah, ça l'a toujours été. Puis même au niveau du papier, c'est une époque où on avait des backups de papier qui étaient faits aussi dans des sites distants. Donc, je comprends pas pourquoi on a comme oublié les façons anciennes de protéger l'information puisque les TI sont au final.
L'ordinateur, ça ne brûle pas. Le papier, ça brûle, mais pas un ordinateur.
Non, parce qu'exemple, un tape magnétique ou un CD, un DVD, là, ça commence à waver puis à être non lisible à partir de 80 degrés C. Puis le flashpoint d'un papier, c'est à peu près 1500 degrés.
Ça fait comme partie de l'attaque qui a été montée dans Mr. Robot d'ailleurs. C'est en plein ça de faire sauter le site de stockage des backups, justement, au sein de la température. C'est exactement ça. Et on va enchaîner avec la nouvelle suivante qui est un peu plus positive, celle-là. Le SCRS s'intéresse finalement au bon hacker, qui est une suite très positive des initiatives du Hackfest.
Yay! Oui, Hackfest cette année, on en a parlé dans les derniers épisodes. On a dit que la ministre Karina Gould avait parlé qu'elle voulait engager des hackers au Canada. Et une semaine après cet épisode-là, on a la nouvelle que le SCRS désire recruter des hackers, donc des personnes faisant de la sécurité au gouvernement. et aussi des data scientists et tout. Donc, on voit aussi la tangente vers le big data et le machine learning dans cette offre-là, merger avec la sécurité, hacking et autres. Donc, c'est vraiment intéressant. Steve, je ne sais pas ce que tu en penses.
Ben, c'est évidemment une nouvelle positive, comme Nicolas apporte. Ce qui me surprend un petit peu, par contre, c'est que il n'y a pas plus d'engouement, il n'y a pas plus de ballon puis de parade de dire hey, voici où on s'en va avec ça. Je veux dire, autant c'est humble comme initiative, ça se veut évidemment dans un contexte où on veut maximiser notre posture de défense au Canada envers les influences potentielles qui s'en viennent. Ça va être vraiment le couvert pour les 7-8 prochains mois, que tout ce qui va se faire en développement de cybersécurité au Canada va être évidemment envers la protection des élections, assurer l'intégrité de ces élections-là. Tant mieux, je veux dire, au moins c'est une initiative qui va amener du positif pour tous les aspects de notre économie, mais qui, je crois que ça mérite beaucoup, la nouvelle mérite beaucoup plus d'attention.
Oui, exact.
Et là, amène un plus, là.
C'est un peu comme on avait dit au Hackfest, la nouvelle avait été couverte en français, mais jamais en anglais.
Exact.
Là, elle n'est tout simplement pas vraiment couverte du tout. Il y a eu un ou deux articles, puis ça a tombé mort après.
C'est une question de timing dans ce cas-ci, parce que je trouve
peut-être
que...
Peut-être timing,
mais... dans la zone un peu où les gens sont encore en vacances.
Oui, mais en même temps, si tu regardes dans toutes les dernières années, chaque fois qu'il a parlé de ça, puis il y a beaucoup de dossiers, justement, pour les red teams ou militaires, puis tu sais, il y a beaucoup de trucs cyber, là, au fédéral, en informatique, puis... si les nouvelles contre le gouvernement sont pas méchantes ou mauvaises, le trend n'est pas aussi là. Là, c'est positif, tout le monde s'en fout, genre. C'est juste, en tout cas, personnellement, je le vois de même, là, mais ça se peut que le timing des fêtes soit pas là non plus.
Ça va en plus une nouvelle négative qu'une nouvelle positive. Mm-hmm. C'est vrai.
Ah oui. Puis on l'a vu au Hackfest, on a eu des journalistes qui couraient dans le stationnement après le CRS, notre partenaire, pour leur poser des questions qui avaient pas rapport, pas de sens, là. Puis dans la vidéo, je pense que c'était TVA, la fille, elle court dans le stationnement. Là. Tu vois la caméra qui swing. C'était n'importe quoi, mais ça revient à ça un peu. Il n'y a pas de scandale, donc très peu de médias là-dessus. Mais ça me surprend quand même parce que, comme on avait parlé aux États-Unis, ce genre de nouvelles-là est énormément poussé parce que ça parle de sécurité. Ici, quand on parle de sécurité, c'est comme bof.
Ah, on n'a pas un marché, on n'a pas une audience qui est favorable, ça ne vend pas. Fait que si ça ne vend pas, les médias ne pousseront pas davantage. C'est, mm-hmm. Ça revient un peu le troll à nous autres de professionnels dans le milieu, puis dans le fond, à travers le podcast, à travers toutes nos différentes capacités à diffuser le message de repousser cette nouvelle-là le plus qu'on peut pour qu'elle soit propagée, parce que c'est une très bonne nouvelle en soi.
Exact. C'est le premier pas. Ben, le premier pas étant ce que Karina Gould a dit, là, c'est une vraie action qui est en place. Clairement, il va en avoir d'autres. Ça, c'est la première chose qu'on voit. Il va en avoir du côté militaire, il va en avoir plus SRS, il va sûrement en avoir aussi SEC. Tu sais, ça va continuer comme ça. Là. Donc, très content, très heureux de voir ça, mais hâte encore une fois de voir la suite des choses.
Définitivement.
Mais c'est un pas en avant, puis c'est très, très heureux ce pas-là. Puis en parlant d'un autre pas en avant, la NSA va relâcher open source certains outils.
Oui, exact. Ça a fait pas mal de bruit sur Twitter cette semaine. La NSA aurait développé par eux-mêmes un outil de reverse engineering et ils vont présenter à la conférence RSA aux États-Unis l'outil en tant que tel, comment il fonctionne, et vont le releaser de manière publique, open source, pour tout le monde qui puisse utiliser ça. Donc là, il y a beaucoup de monde qui... Parce que ce qu'il faut comprendre en reverse engineering, il y a comme un ou deux outils principaux qui existent. IDEA, qui coûte une fortune. Donc, généralement, la joke, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui pirate IDEA pour contourner la sécurité de ce logiciel-là, parce que c'est un logiciel pour faire du reverse pour contourner la sécurité, là, ou reverser des malwares et autres. Mais là, ça va venir changer la donne un peu là-dessus. Il y a des rumeurs qui disent que ça serait développé en Java, donc à voir qu'est-ce que ça va donner là. Voir aussi le nombre de features, parce que là, c'est juste un tease. Il n'y a aucune donnée, aucune information sur l'outil. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le réaliser au complet non plus, one shot. Il y avait une discussion qui disait aussi que le logiciel permettrait du reverse engineering, mais de manière plusieurs personnes en même temps, live, un peu comme un Google Doc. Donc, le monde espère que ça va faire partir de ce release-là parce que c'est une feature qui est demandée à IDEA depuis plusieurs années. Et bon, à voir ce que ça va faire, mais c'est une bonne nouvelle. Puis, tu sais, ça très en lien à la dernière nouvelle qu'on dit que pour le recrutement des civils de hackers au gouvernement. Puis là, ben, c'est l'inverse, c'est le gouvernement qui redonne aux civils. Donc, c'est un.
Ouais, puis ça met des, ça met
des, le cercle.
Ouais. Ça met des outils pertinents dans les mains de gens qui vont pouvoir effectivement rentrer dans ces forces-là et aider les bons éléments. Parce que c'est en contact avec ça, parce que c'est trop cher. Là, ça donne accès à des gens, des connaissances et des capacités qu'ils n'avaient pas
par avant. C'est un excellent outil de recrutement par la bande. Tu vas avoir des centaines de personnes qui vont utiliser ça chez eux parce que l'outil est peut-être meilleur que les autres. Peu importe si elle l'est ou pas, mais si les personnes sont bons et comprennent cet outil-là, hey, tu arrives en entrevue, ben, tu sais déjà comment ça marche. C'est clairement une bonne manière de faire les choses.
Ça donne un excellent avantage, un, aux candidats pour se former eux-mêmes, mais en même temps, sur le marché du reverse engineering, ça va enlever un peu l'espèce de monopole de ce que IDEA. Ils vont peut-être rebalancer un peu le marché de un, ils vont peut-être avoir des prix plus acceptables de un. Puis, pour intégrer des technologies nouvelles et la compétition a toujours ça de bon, c'est qu'à refaire sortir le mieux. Fait que ça va avoir une saine compétition là-dedans, va avoir une piste pour tout le monde.
Oui, ça va relancer les choses. Puis en plus, c'est open source, il va sûrement avoir une couple de personnes qui vont réutiliser ça pour repartir de là ou ajouter des modules, etc. Donc, par défaut, c'est sûr que c'est du bon qui va arriver de là.
C'est un excellent nouvelle, mais tant qu'à parler de reverse engineering, on va terminer avec quel genre de malware qu'on peut s'attendre en 2019?
Là, ce ne sera pas une grosse surprise de comprendre qu'on va encore avoir des ransomware, on va encore avoir du crypto mining malware. Lui, on l'a laissé aller pas mal en 2018, mais il était toujours présent. Puis on a beaucoup de sites web qui ont commencé à s'investir de ce genre d'outils-là. Mais les fileless worms, autrement dit, des vers avec aucun code statique, les autres vont d'après moi vont faire beaucoup plus de chemin. Alors que ça va être plus facile de pouvoir en perdre l'attribution de à qui ça appartient une fois que l'ordinateur redémarre. Donc, les aussi les virus, les malwares des wipers. Les wipers, ça ne veut pas dire qui essuient les affaires, mais bien qui vont détruire les disques durs, comme qui est arrivé avec, encore une fois, l'Aramco, la plus grosse compagnie pétrolifère en Arabie Saoudite. Deux fois se sont fait attaquer. Je veux dire, il y a beaucoup de compagnies, justement, de pétrolifères qui se sont fait attaquer par des wipers. Et qui les laisse à ce moment-là. C'est tous des systèmes administratifs qui sont affectés. Il n'y a rien qui a affecté présentement la production. Mais à donner en cas que ça en vient un peu plus, qui pénètre un peu plus loin, qui sont capables de déranger la production de pétrole, bien là, ça peut faire changer quelque chose dans l'économie mondiale. Tout comme les botnets, je veux dire, les card skimming, les malvertising, autrement dit, pour la mauvaise publicité qui va venir truquer les gens, cliquer sur le mauvais lien, compromettre les machines, se faire exploiter de l'information. Je veux dire, la scène demeure la même qu'on a vue depuis les quelques dernières années. Mais je crois que ça va juste augmenter en termes de fréquence que ça va arriver parce qu'il y a encore là beaucoup de gens qui n'ont pas une bonne cyberhygiène, nettoient pas jamais le cookie ou peu importe les fichiers temporaires qui sont dans le système, que ce soit portable, que ce soit sur les ordi statiques à la maison. Ce qui ouvre la porte justement à ce que beaucoup de ces sollicitations-là vont arriver plus souvent. Et les gens en sont désabusés, ils en ont vu tellement, on en parle souvent, on essaie de faire le plus possible de sensibilisation, on laisse savoir aux gens, faites attention, etc. Mais les gens, la manière qu'ils voient ça aujourd'hui, qu'ils fassent attention à tout, où ce qui marche, qu'est-ce qu'ils respirent, qu'est-ce qu'ils mangent, et là aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils voient sur Internet, etc. Fait que oui, c'est ça qui est un petit peu fatigant, mais la game, c'est ça malheureusement. L'Internet est rendu comme ça. Oui, il faut se mettre des gants pour toucher au clavier par souris parce que vraiment tout est sale sur Internet.
Bien malheureusement, oui. Mm-hmm. Bon, fait qu'un thumbs up de Patrick va clore cette nouvelle-là. C'est quand même intéressant. Fait que, messieurs, ça complète notre premier épisode 2019. Je vous souhaite une excellente année, comme je souhaite une excellente année à tous nos auditeurs.
Yes.
Et soyez en sécurité. LOL.
Mm-hmm. Essayez de...
overdrive.
Overdrive.